Bonjour à toutes et à tous, Punsun, à toutos et à toutes. Vous êtes bien sur Radio Albigès dans votre magazine Gardarem la Terre. Et cette semaine, nous vous proposons un petit flashback puisque nous allons revenir le 18 avril dernier. C'était la 6e journée de la biodiversité sur le campus de Fond-Labour. Et alors, Radio Albigès était sur place, nous avions un petit plateau radio. Et à notre micro se sont enchaînés plusieurs intervenants et intervenantes qui nous ont parlé de leur travail, pour la plupart, vous en doutez, engagés en faveur de la biodiversité. Et ça tombe bien puisque justement la journée mondiale de la biodiversité, eh bien c'est le 22 mai. Alors on a un peu de chance puisqu'on est en avance dans le Tarn. Et sur Radio Albigès, nous vous proposons tout de suite de revenir sur cette 6e journée. Écoutons un petit peu tout ce qui s'est passé, toutes les choses intéressantes qui se sont racontées. On est ensemble pour une heure. Gardarem la Terre, c'est parti.
On a une nouvelle invitée sur le plateau de Radio Albigès, Véronique Juillet.
Bonjour.
Véronique Juillet, vous représentez aujourd'hui l'Agence française pour la biodiversité Tarn, c'est ça ?
C'est ça. Donc je travaille donc dans le service départemental du Tarn de l'AFB.
AFB, donc Agence française pour la biodiversité. Oui. Tarn, parce que c'est une agence nationale et qui...
Voilà, c'est ça. L'AFB, en fait, c'est un établissement public qui dépend directement du ministère de l'Environnement et donc qui est représenté dans chaque département de France, donc qui est divisé en une direction générale, des directions régionales. Donc pour la direction... Moi, je dépends de la direction régionale Occitanie, donc qui est basée à Toulouse et à Montpellier, et un service départemental, donc le service départemental du Tarn, qui regroupe 6 agents, qui travaille pour la préservation de la biodiversité. Donc à la fois des missions de connaissance, donc on fait des inventaires de la faune, plus tourné pour le moment nous sur les milieux aquatiques, mais ça va se diversifier, parce qu'au 1er janvier 2020, l'AFB va fusionner avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour créer l'Office français de la biodiversité, donc encore un nouvel établissement. Donc il va élargir nos compétences, notamment dans le domaine terrestre. Actuellement, l'AFB, donc c'est un établissement assez récent, qui date du 1er janvier 2017, qui a regroupé différents établissements publics, donc l'ONEMA, Office national des eaux et des milieux aquatiques, les parcs nationaux de France, les parcs naturels marins, et l'atelier technique des espaces naturels, qui est un organisme qui fait des formations ciblées environnement. Voilà, donc pour le moment, on est plutôt spécialisé sur milieu aquatique, à la fois eau douce et marin. Et là, avec la création de l'OFB, avec nos collègues de l'ONCFS, on va se diversifier sur l'ensemble de la biodiversité, en fait.
Ça s'est créé depuis quand, cet organisme-là ?
Donc l'OFB, au 1er janvier 2020, donc dans un an.
Mais l'agence française...
Et l'AFB, depuis 2 ans, depuis le 1er janvier 2017.
D'accord. Avant, il n'y avait pas de...
Avant, en fait, c'était différents établissements publics qui travaillaient chacun sur leur thématique, un peu plus précise. Donc les parcs naturels marins, comme celui du Golfe de Lyon, celui de... celui à Brest, la mer d'Iroise. C'est donc vraiment, chacun était sur son domaine de compétences. Et avec la nouvelle loi biodiversité, en fait, l'objectif en fait, de la politique publique, c'était d'avoir un établissement plus important, vraiment sur la thématique de la biodiversité, et donc de créer l'AFB. Et maintenant, futur OFB, qui va être encore plus agrégé, encore plus de compétences, qui donne certains côtés à une certaine logique, quoi.
Donc vous, Véronique Juillet, votre statut là-dedans, tout ça.
Donc moi, dans tout ça, je suis agent technique de l'environnement, donc inspecteur de l'environnement dans le service départemental du Tarn. Donc à l'AFB, il y a un service départemental dans chaque département, y compris à l'Outre-mer, et donc qui regroupe une dizaine de personnes. Avec l'OFB, ce sera entre 10 et 20 personnes. Et donc, je suis agent, donc j'ai nos missions en tant qu'agent en SD, en fait. SD, service départemental. Ouais. On a des missions, donc ce que je disais, à la fois de connaissances, donc on fait des inventaires piscicoles, des pêches électriques, des inventaires amphibiens, à la fois de jour, de nuit. On suit des espèces patrimoniales, les écrevisses. On a aussi, le gros de nos missions, c'est les missions de police, donc de police de l'environnement, police de l'eau, police de la nature. Quand il y a une pollution, on intervient. Donc on travaille.
Ça veut dire qu'il y a un droit
Alors,
des amendes.
C'est ça. En fait, il y a un code de l'environnement en France qui légifère tout. Enfin, qui réglemente en fait les activités qui peuvent avoir un impact sur les cours d'eau, sur les milieux aquatiques, sur les zones humides, sur les plans d'eau. Et il y a aussi une réglementation relative à la protection des espèces, donc faune, flore, donc des espèces protégées ou menacées. Et donc nous, on fait appliquer cette réglementation. Voilà.
Et donc on peut vous saisir si on pense qu'il y a des choses qui sont pas bien faites dans.
Voilà. Ouais. Donc enfin, nous
on travaille. L'industrie, des particuliers.
Oui, tout à fait. Tous les types d'usagers. Ouais, ouais. Des particuliers, des professionnels, donc des industriels, des agriculteurs, des collectivités également. Voilà. Et nous, on travaille directement dans. Donc, on fait uniquement de la police judiciaire, enfin, principalement de la police judiciaire. Et donc, on travaille sous l'égide des procureurs de la République, donc des parquets. Donc, en police judiciaire. Donc, on est en uniforme, on a un port d'armes, on est armé. Donc, on fait des missions de police judiciaire. Voilà.
Et donc, du coup, vous avez fait une école de police pour.
Non, en fait, on a une. Dans le cadre de notre formation, on a des modules spécifiques pour la police. Donc, à la fois connaître la réglementation et aussi. Ce qu'on appelle nous sécurité, contrôle, intervention. En fait, c'est des formations sur la manipulation des armes à feu, enfin notre arme à feu, sur les process de contrôle. Voilà. Voilà, gestion des risques.
C'est pas tous les jours qu'on se sert d'une arme à feu.
Non, pas l'OFB, pas l'AFB, non. Non, après, c'est comme on assure des missions de police judiciaire, qu'on est aussi amené à contrôler des personnes qui sont armées, les chasseurs notamment. Mmh. Et donc, surtout pour les collègues de l'ONCFS. Donc, on est armés, quoi. Voilà.
Et alors, si des gens qui nous écoutent veulent s'orienter, par exemple, sur ces métiers-là,
oui.
Qu'est-ce que c'est comme formation?
En fait, il y a deux concours qui dépendent donc directement du ministère de l'Environnement. C'est vous tapez sur Google concours technicien de l'environnement ou agent technique de l'environnement.
Ou sur un autre
moteur, ou sur un autre moteur de recherche pour ne pas faire de publicité. Oui, vous avez raison. Et donc c'est un concours national qui est organisé par le ministère de l'Environnement. Il n'y en a pas forcément tous les ans. Pour les postes d'agent technique de l'environnement, c'est à partir du brevet, les collèges. Et pour les techniciens de l'environnement, il faut avoir le bac. C'est ouvert au bac. Après, le niveau, c'est plutôt bac plus 2 en biologie, écologie. Ça peut être des BTS, ça peut être des licences. Voilà.
En tout cas, on ne cherche pas des fous des armes, quoi.
Non,
des gens qui,
non,
c'est plus. De...
Oui, non.
Posément faire appliquer le droit.
Voilà, le droit de l'environnement et puis de faire aussi, de communiquer sur. De faire de la mobilisation citoyenne sur tout ce qui est biodiversité, d'intégrer en fait ces notions à tous les échelons de la société. Quoi. Voilà.
Donc Véronique Juillet, je rappelle que vous représentez l'Agence française pour la biodiversité Tarn. Aujourd'hui, à Fond-Labour, vous proposez une conférence sur l'érosion de la biodiversité d'eau douce. Constats globaux et locaux, quelle action pour la freiner? Est-ce que, sans dévoiler toute la conférence, est-ce que vous avez quelques pistes de comment la freiner justement? Quelle action pour la freiner?
Alors, pour prendre conscience de cette érosion, le premier pas, c'est la prise de conscience. Ensuite, l'acceptation, c'est-à-dire freiner cette érosion, ça veut dire qu'il va falloir un petit peu changer nos façons de voir les choses. Et après, il y a différents leviers. Hein. Moi, de mon côté, je parle toujours du levier réglementaire. Donc déjà, faire appliquer la réglementation existante, donc que ce soit par rapport à la destruction des milieux ou des espèces qui y vivent. Une mobilisation citoyenne autour de cette thématique, donc de la biodiversité et de sa préservation, que chacun, à son niveau, peut faire des petits gestes au quotidien pour réduire son impact, en fait, sur l'environnement.
Là, quand on parle d'eau, par exemple, c'est éviter de rejeter des produits dans l'évier.
Voilà, déjà, choisir les produits qu'on achète, éviter d'acheter des produits qui sont polluants, qui sont...
Surtout les produits ménagers,
j'imagine. Les produits ménagers, par exemple, ouais. Et les produits d'entretien, mais aussi les produits cosmétiques, hein, qui sont, quand on regarde les étiquettes, parfois, c'est des produits chimiques. Et également, tout ce qui est consommation d'eau, essayer de faire des économies, ne pas penser à fermer le robinet quand on se lave les dents, à récupérer l'eau des légumes, par exemple, pour arroser le jardinage, récupérer l'eau de pluie. Il y a différents petits gestes au quotidien qui, petit à petit, les toilettes sèches, par exemple aussi, ouais, ou récupérer l'eau de toiture pour la toilette ou la machine à laver. Des petits gestes qui peuvent paraître anodins, une goutte d'eau dans un océan, mais qui, si on les pratique tous, auront un impact. Et à la fois dans les pratiques, donc chacun, chaque citoyen, chaque personne peut avoir des actes citoyens comme ça, mais aussi dans les pratiques professionnelles, être plus vertueux au niveau de notre impact sur l'environnement.
Véronique Juillet, merci beaucoup pour votre temps. On vous laisse partir à une autre urgence Fond-Labour, récupérer votre collègue, je crois.
Voilà.
Merci beaucoup.
Et merci.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Vous êtes bien sur Radio Albigès dans votre magazine Gardarem la Terre, cette semaine consacrée à la 6e journée de la biodiversité qui a eu lieu le 18 avril 2019 sur le campus Fonds-Labour à Albi. On continue cette journée de la biodiversité ici à Fonds-Labour. Et pour continuer, on est en compagnie d'Emeline Ganis. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors vous êtes ici pour présenter une conférence d'ici quelques petites minutes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pour commencer déjà qu'est-ce que vous allez présenter et donc quelle structure vous représentez ici?
Oui, donc déjà merci à vous de me recevoir. Alors je vais présenter une conférence sur trois grandes thématiques qui sont l'agroécologie, les semences paysannes et la solidarité internationale. Donc c'est des thématiques très larges que je vais essayer de brosser, donner quelques pistes de réflexion à l'auditorium. Voilà, donc c'est carrément en lien avec les actions de l'association que je représente. Donc l'association SOL, Alternative Agroécologique et Solidaire, c'est le petit nom en entier. C'est une association qui depuis maintenant plus de 39 ans œuvre pour la satisfaction des besoins essentiels des petits paysans et la valorisation de leur rôle dans la société.
Partout dans le monde.
Partout dans le monde. Alors c'est essentiellement aujourd'hui en Inde, au Sénégal et en France. Voilà, donc ça passe par nos axes d'action, c'est du soutien à des partenaires locaux. Donc SOL n'a pas de projet implanté au nom de SOL, mais soutient des initiatives locales. C'est-à-dire qu'on travaille avec des organisations paysannes, des fermes, des groupements de producteurs, des maraîchers au niveau local.
Ben merci, c'est très bien présenté pour commencer. Donc on rappelle aussi que c'est une conférence qu'on pourra réécouter sur les ondes de Radio Albigès puisqu'elle est enregistrée aussi comme toutes les autres conférences qui sont présentées aujourd'hui. Donc on pourra, si vous souhaitez en savoir plus, vous pourrez l'écouter sûrement en passant par notre site internet. Et pour parler un petit peu, c'est quoi le lien du coup entre agroécologie, semences paysannes et solidarité internationale, ce dernier volet en tout cas qui arrive? Pourquoi l'avoir intégré? Comment ça s'intègre en fait? Pourquoi le côté international?
Oui, alors déjà... l'agroécologie, c'est un concept qui est de plus en plus connu. Nous, on a à cœur chez SOL de l'aborder de manière systémique. C'est-à-dire que l'agroécologie, pour nous, ça va au-delà de simples pratiques agricoles. C'est aussi une conception du système et du modèle agricole et alimentaire. Ça passe par la valorisation de la transmission des savoir-faire paysans, de l'aspect social, en maintenant, donc, en valorisant le métier de paysan, leur dignité, un revenu digne, faire le lien avec les consommateurs en fournissant une alimentation accessible et de qualité. Donc nous, c'est vraiment un aspect vraiment très, très global de l'agroécologie qu'on défend. On parle même d'agroécologie paysanne chez SOL. Et au sein de cette agroécologie paysanne, on met en avant les semences paysannes comme étant une solution, une porte d'entrée qui vise à l'autonomie des paysans, autonomie décisionnelle, économique et alimentaire. Et nous, c'est un des axes d'action qu'on a chez SOL, que ce soit en Inde, au Sénégal et en France. C'est vraiment la valorisation des semences paysannes, de leur utilisation à la formation, au savoir-faire de la reproduction, multiplication et conservation de ces semences. Et l'aspect solidarité internationale, il vient assez naturellement du fait déjà du parcours de SOL, mais aussi que ces thématiques de l'agroécologie et des semences paysannes, on en parle beaucoup en France, mais en fait, elles concernent tout le monde, tous les petits paysans. L'alimentation mondiale, elle provient majoritairement de petites fermes d'agriculture familiale. Et du coup, ces thématiques-là ont une résonance internationale. Et la solidarité internationale, elle est vraiment là pour dire ben, on a tous des choses à s'apporter, de l'entraide et aussi un partage de connaissances qui est nécessaire et indispensable aujourd'hui, sortir de l'entre-soi et chez SOL, c'est ce qu'on défend, voilà. C'est ces échanges de savoir.
Alors moi j'ai une question, quand j'ai vu semences paysannes et solidarité internationale, en tout cas le côté international, je me suis dit, est-ce que c'est pas le projet de Bill Gates qui voulait faire un grenier, je crois que c'est fait, un grenier mondial pour sauver des graines qu'on allait congeler pour au moins les garder s'il y a des guerres, etc. Est-ce que c'est ça le projet ou est-ce que c'est vraiment plutôt autonomiser les paysans pour de la biodiversité dans les champs et non pas forcément dans des musées à graines qui pourraient peut-être être contre-productifs? Est-ce que ce projet déjà, est-ce que vous, peut-être pour rappeler ce que c'est Bill Gates qui veut nous sauver de la faim connaissais pas.
Si. C'est une idée. Nous, on n'est pas dans cette dynamique-là. Ouais. Nous, on promeut une utilisation des semences paysannes dans un vivant. C'est-à-dire la multiplication, la sélection, la transmission de savoir, elle se fait dans les champs. C'est-à-dire qu'on parle de semences paysannes. En fait, c'est des semences qui ont été multipliées, sélectionnées au fur et à mesure des millénaires, par des paysans qui sont porteurs de savoir-faire. Isoler une semence, c'est isoler aussi la manière de son histoire, c'est-à-dire comment on est abouti à cette graine, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce qu'elle donne et comment on fait pour qu'elle vive. Nous, c'est vraiment... on part sur du vivant.
Ouais.
Et par exemple, nous, on a un projet dans le sud-est de maison de semences paysannes maralpines. Et du coup, les banques de semences sont vivantes. C'est-à-dire que c'est des échanges, des trocs, des transmissions de savoir, de connaissances et d'entraide entre les paysans. Et c'est ça qu'on défend.
Paysans et individus, parce que par exemple, si on parle de chez nous, à Le Tarn, puisqu'on rappelle, vous êtes plutôt sur Paris et à l'international ensuite. Chez nous, on a Pétanier, l'association qui de paysans semenciers. Pas gros semenciers, mais des gens qui ont des variétés paysannes, des variétés anciennes de graines, qui cultivent, pas forcément à grande échelle, mais pour avoir toujours des traces de blé ancien, etc. Et qui demandent à certains particuliers d'avoir aussi quelques plants chez eux, dans un petit jardin, pour aussi avoir toujours une possibilité de retrouver ces graines-là, parce qu'il y en aurait un peu partout, et pas concentrées sur un seul... Est-ce que c'est aussi le but chez vous ?
Oui, tout à fait. Pour revenir du coup sur notre projet dans le sud-est, c'est un projet de collectif qui œuvre ensemble à la gestion de la biodiversité cultivée au cœur des Alpes-Maritimes, donc vraiment dans un petit territoire. Et dans ce collectif, il y a des maraîchers et des jardiniers. C'est-à-dire que les maraîchers vont s'intéresser aux variétés productives parce que leurs revenus dépendent de la vente des légumes qui sera vendu sur le marché ou au sein de d'AMAP. Et les jardiniers vont s'occuper, on va dire, des variétés qui ont un moindre intérêt économique, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas cette pression de la vente, du rendement, mais va s'occuper de conserver et de multiplier des variétés très locales, très curieuses, un peu originales. Ouais. Et on a besoin aussi de ces jardiniers-là pour conserver des variétés qui n'ont aujourd'hui aucun intérêt économique, entre guillemets, pour des maraîchers.
Mais des intérêts génétiques pour...
Exactement. Il en faut, pour conserver cette biodiversité cultivée. On a besoin de tout le monde.
Alors peut-être juste parce que là on parle depuis tout à l'heure de semences paysannes, je pense que tout le monde autour de ce plateau comprend ce que ça signifie et surtout la grosse différence avec peut-être les autres semences qui sont utilisées par d'autres types d'agriculture.
Est-ce que
vous pourrez faire un rappel peut-être juste pour différencier vraiment quel est l'intérêt presque vital de garder les semences paysannes contre d'autres types de semences type Monsanto, Bayer
Ou quel danger on a à breveter par exemple certaines semences
Alors déjà, les semences paysannes, c'est des semences qui sont issues d'une grande histoire de la vie, de la sélection, de la multiplication, qui sont le résultat en fait de tous ces savoirs et savoir-faire paysans sur cette sélection-là, et qui sont reproduites au sein même d'une parcelle, d'un champ, donc qui sont vivantes finalement. À l'inverse de variétés qui ont été sélectionnées selon des critères techniques et technologiques. Même on parle d'hybride F1, donc c'est une technique de sélection et de reproduction de graines. La différence entre ces deux au niveau pratique, enfin au niveau système culturel, c'est que les semences paysannes, si j'en plante une dans mon champ, je peux par la suite la retrouver, donc avec le fruit qu'elle donne, le légume qu'elle donne, je peux reprendre mes graines, les conserver chez moi et les ressemer l'année d'après.
Donc voilà. Vous disiez l'autonomie.
Il y a une autonomie, c'est-à-dire que en produisant des légumes issus de semences paysannes, je conserve le patrimoine génétique donc de mon légume, et en plus je n'ai pas besoin chaque année d'acheter de nouvelles graines. Et je sais ce que je plante, c'est-à-dire que je sais ce que je plante, et en général ça donne de bons produits, des produits sains et de qualité nutritive très intéressante. À l'inverse de semences que je peux acheter dans n'importe quelle grande surface ou ailleurs, où là j'ai potentiellement une première récolte qui peut être intéressante, mais je ne peux pas reprendre les graines pour les ressemer l'année d'après, ou si je le fais, je ne suis pas certaine ou certain de ce que j'obtiens à la fin, ce qui m'oblige à en racheter l'année d'après. Donc à l'échelle de l'individu, ça représente peut-être un sachet de graines, mais à l'échelle d'un maraîcher qui vide sa production, ça représente des coûts énormes. Et en plus de ça, je ne parle pas des produits qu'il faut souvent utiliser pour aider la plante à pousser, car étant créée dans un laboratoire, elle nécessite certains amendements, enfin certains boosters en fait, pour arriver à une production correcte. Donc là, les semences paysannes n'obligent pas la plante à être supplantée ou à être boostée par des autres produits.
Et des autres produits qui sont en général fabriqués par le même fabricant qui nous vend les graines.
Exactement, oui, c'est tout un système agro-sémencier qu'on a derrière.
C'est l'autonomie, donc, mais de celui qui vous rend dépendant.
Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qui vous vend les semences vous vend aussi les produits qui vont avec la semence. Voilà, pour faire un petit kit contre l'autonomie, finalement. Voilà.
Alors du coup, est-ce qu'on peut supposer qu'il y a quand même un gros intérêt financier derrière et peut-être que ces fameuses semences hybrides F1 sont modifiées génétiquement pour ne pas pouvoir être replantées l'année d'après, pour forcer les paysans à acheter du coup chaque année des nouvelles graines auprès de toujours ces mêmes fabricants
Oui, il y a vraiment des... D'accord. Il y a des questions à se poser là-dessus, sur cette dépendance créée via les semences. Et du coup, c'est pour ça que nous, les semences paysannes, qui sont vraiment centrales, hein, c'est-à-dire que tout un chacun devrait aujourd'hui être au courant de ça, qu'on soit consommateur, c'est-à-dire que nous, on est aussi en droit de savoir si le produit qu'on consomme est issu de semences F1 ou de semences paysannes, parce que ça induit énormément de choses aussi au niveau consommateur. Mmh. Et voilà.
Okay. Je rappelle donc qu'on est toujours avec Emmeline Ganis de l'association Sol sur la sixième journée de la biodiversité sur le campus Fol Labura à Albi. Juste peut-être une dernière question, Paul. Moi j'en aurais une tout à l'heure.
Alors je te laisse finir puisque moi je crois qu'on a appris déjà beaucoup et puis on en apprendra encore plus pendant la conférence.
Sur votre rôle envers les paysans, est-ce que c'est, on l'a dit, c'est une petite exploitation qui est sur des semences paysannes, elle est viable économiquement, théoriquement, sauf qu'effectivement elle est menacée peut-être par d'autres moyens de production et le savoir-faire peut ne pas se passer de génération en génération et peuvent être tentés d'acheter... des semences et changer de pratique. Vous, du coup, votre rôle, c'est quoi? C'est financer des choses du pédagogique? C'est financer des cours, des formations? Ou c'est que du pédagogique? Est-ce que vous pouvez lever des fonds pour sauver une ferme? C'est quoi les... Ouais.
Alors nous, du coup, on soutient des associations, des organisations paysannes qui existent déjà. Donc déjà. En fait, on soutient leur activité. Donc les activités sont en ligne avec ce qu'on défend, évidemment. Par exemple, on travaille avec la ferme de Sainte-Marthe en Sologne, qui est un conservatoire vivant de semences paysannes. Donc on soutient leur activité avec leur jardin de semences, tout leur travail de sélection, multiplication, conservation et vente de semences paysannes. L'aspect aussi pédagogie. Dire que ce conservatoire va accueillir cette année de plus en plus de monde avec des visites guidées, de la sensibilisation. On en fait aussi au niveau de Paris en organisant des événements pour sensibiliser aussi le public parisien sur ces thématiques paysannes, agroécologie et semences. Et du coup, on soutient un projet dans le sud-est qui tend à valoriser les semences paysannes dans les Alpes-Maritimes. Donc c'est très global. On soutient vraiment des activités qui vont de la pédagogie à la sensibilisation. Et on fait aussi à l'échelle de Sol et des réseaux auxquels on appartient au niveau national, donc à Paris, un travail de plaidoyer. Donc on fait partie de plusieurs réseaux pour... porter d'une voix forte ce qu'on a envie de défendre et l'agroécologie paysanne, le modèle agricole alimentaire qu'on voit comme étant une solution pour les problèmes qu'on voit aujourd'hui. Donc notre action, elle est vraiment soutien terrain et aussi plaidoyer à l'échelle nationale.
Et donc si on veut vous aider à aider les autres, comment on fait
Alors vous pouvez rejoindre l'équipe en tant que bénévole chez Sol, sachant qu'on n'est pas obligé d'être parisien pour être bénévole chez Sol. Donc ça peut être chouette. Ensuite, relayer nos actions, nos publications, vous pouvez aller sur notre site internet. C'est www.sol-du6asso.fr. Notre page Facebook également, on organise des événements. On en fait de plus en plus maintenant en Occitanie, donc on pourra vous tenir informé. Et puis, si vous voulez soutenir nos actions, il y a aussi... possibilité de donner une petite contribution pour poursuivre nos projets.
Sol, voilà. S-O-L.
Exactement.
Ben, merci beaucoup.
Ben, merci à vous de m'avoir accueilli.
Et on vous laisse aller vous préparer pour la conférence qui va débuter d'ici très longtemps.
Oui. Voilà, conférence qu'on pourra réécouter sur le site internet de Radio Albigès, a priori, si tout va bien.
Mais il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas. Ça,
ben, merci
ça va
à
bien
vous.
Le faire. Merci beaucoup, Emeline Ganis,
ouais.
Donc, qui est représentante de l'association Sol. Merci et très bonne journée sur cette journée de la biodiversité à Fond-la-Bourg.
Merci.
Vous êtes bien sûr Radio Albigès dans votre magazine Gardarem La Terre, cette semaine consacrée à la 6e journée de la biodiversité qui a eu lieu le 18 avril 2019 sur le campus Fond-Labour à Albi.
Vous êtes toujours sur Radio Albigès 95.4, 104.2. On enregistre cette émission depuis le campus de Fond-Labour pour la 6e édition de la journée de la biodiversité. On a déjà eu beaucoup d'intervenants et d'intervenantes qui se sont succédés et on enchaîne avec un trio qui vient cette fois-ci à notre plateau. Un trio constitué de Édouard Chollet, Corinne Fonseca et Joël Romual. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes tous les trois ensemble puisque vous avez participé à une projection débat qui a été organisée tout à l'heure là, dans le cadre de cette journée de la biodiversité, la projection du film Caractère. Je le dis en deux mots puisque si j'ai bien compris, ça s'orthographie comme ça.
C'est ça.
Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi l'objet de ce film et pourquoi l'avoir choisi pour faire une projection débat aujourd'hui ?
Alors, j'ai choisi ce film, c'est un film documentaire donc qui propose une galerie de 8 portraits. Ce sont des hommes et des femmes enracinés dans leur terre, qui ont envie de la préserver et qui, donc, à ce titre, apparaissent dans le film. Donc c'est pour ça qu'on a choisi avec l'équipe de STAV ce support. En tant que prof, donc ça m'a permis avec les élèves de réfléchir sur la question du vivant, puisque c'est au programme des terminales STAV. Et en même temps, donc ça a été la possibilité pour cette année de le proposer au ciné-débat de la journée de la biodiversité.
Ok, super. Et donc vous avez eu la chance de pouvoir avoir pour la projection débat deux protagonistes de ce film, donc qui sont Édouard Chollet, vous êtes maire de Barjac, et bonjour.
Bonjour.
Rebonjour, j'avais fait un bonjour général. Maintenant,
en tout cas, je suis enchanté d'être à Albi.
Eh bien, nous sommes enchantés de vous recevoir. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler pour commencer de vous, quel a été votre rôle dans ce film, et peut-être plus globalement en tant que maire, quelle est votre approche par rapport à la commune et pourquoi donc vous vous retrouvez dans ce film ?
Je me retrouve dans ce film parce que j'étais dans d'autres films précédemment, notamment Nos enfants nous accuseront de Jean-Paul Jaude, qui traite d'un sujet capital, à savoir la restauration collective scolaire et des personnes âgées dans ma commune, à partir d'une cuisine centrale qui a évolué pour être à peu près à 100% bio. Et à partir de là, développer un projet, y compris agricole, de manière à justifier ce mot que j'ai un peu inventé pour la circonstance, la terre, notre honneur, à savoir une responsabilité collective, celle des paysans, mais celle des cuisiniers, celle des consommateurs, qui sont des gens qui font des choix et qui, à partir du moment où ils font des choix, jouent un rôle politique, voter par l'assiette. Il y a une émission de radio et de télé à Public Sénat qui s'appelle « Manger, c'est voter », piloté par le critique gastronomique de Marianne Péricolégas.
D'accord. Et oui, effectivement, quand on vous entend, on comprend ce que ça signifie un peu. Alors du coup, ça me fait penser que des fois, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local, justement, au niveau de la commune, de la municipalité, pour agir concrètement sur ces problèmes-là. Et donc du coup, la gestion de la cuisine, d'une cuisine collective, c'est une compétence municipale.
C'est une compétence municipale, mais il y a 1000 choses à faire au niveau d'une commune. Déjà, un maire doit protéger les sols, faire en sorte que ne disparaissent pas 25 mètres carrés à la seconde en France, faire en sorte que l'humus ne disparaisse pas aussi et que la terre garde toujours sa puissance productrice grâce à un humus naturel où il y a des microbes, où il y a des champignons, des insectes déchiqueteurs, des vers de terre, des sols vivants, comme on dit. Garder cela, et puis aussi agir pour diminuer l'impôt des paysans. Moi, je viens, en ce dernier budget, de diminuer de 50% l'impôt foncier non bâti. dans ma commune et de le faire passer à 35%, c'est-à-dire 20% en dessous de la moyenne nationale. Il y a mille choses à faire. Ce n'est pas pour autant qu'on arrivera à les sauver, ces paysans qui disparaissent un à un de nos terrains, de nos campagnes. Et ça, c'est une tragédie que personne ne souligne. Effectivement, si on ne s'y prend pas autrement, il y aura non seulement plus des vers de terre dans les sols, mais il y aura même plus de paysans sur les sols pour les travailler. Il y aura des friches. Et on approvisionnera les gens en alimentation. Comment ? En le faisant venir de l'étranger. Donc il y a des enjeux politiques très forts. Et moi, je pense que, à l'instar de quelqu'un comme Pierre Rabhi, chacun a sa responsabilité en la matière et qu'on peut faire chacun un peu.
Et chacun a sa goutte d'eau à porter sur l'incendie pour tenter de le retarder.
Voilà.
Et en tout cas, on se fait un plaisir de souligner tout ça sur Radio Albigès, hein, même si malheureusement, on aimerait bien que beaucoup de médias nous suivent. Hein, mais on est très content de donner la parole à ce genre de propos, en tout cas dans ces petites radios locales et associatives. Peut-être, justement, ici, on est à Albi, quand même, une ville qui a un petit peu fait parler d'elle il y a quelques temps en ce qui concerne une certaine autosuffisance alimentaire. C'est nous était promis, je crois, à l'horizon 2020. Je crois qu'on en est quand même assez loin. Peut-être que vous arrivez à quelque chose. Est-ce que vous auriez peut-être des conseils à donner? Je me dis que peut-être que votre commune n'a pas le nombre d'habitants évidemment de la commune d'Albi, mais quelles sont les pistes pour commencer et comment atteindre cette autonomie alimentaire?
Je crois que c'est une décision politique essentiellement. Il suffit de le décider. Je parle de la restauration collective dans les écoles. Il faut que le conseil municipal le décide et consente à faire l'effort qu'il faut pour cela. Et s'il fait cela, il va induire évidemment une autre agriculture, parce qu'il va y avoir de la demande, une très forte demande. Donc je crois qu'il faut commencer par cette décision politique. Il va y avoir des élections municipales, chacun pourra regarder ce qui se mange dans la cantine de l'école de son enfant et se dire que le candidat au renouvellement ou le candidat au pouvoir est un humaniste ou pas. S'il a décidé de former les nouvelles générations de bonne façon du côté de la papille, ou bien s'il a décidé de le laisser en proie à la néfaste food.
Et pas seulement de la papille, hein. Malheureusement, ça atteint aussi la santé. C'est pas seulement une histoire de goût, tout ça. Mais merci beaucoup à vous. Donc, je rappelle, Édouard Chollet, vous êtes maire de Barjac et donc une star de cinéma, puisque vous avez tourné dans de nombreux films documentaires et donc puisque vous avez recentré un petit peu la cuisine collective de votre commune autour de l'agriculture locale et donc saine. Merci beaucoup.
Les étoiles ne s'atteignent pas, donc je me refuse au vocable de star.
Je sais
Quoique,
bien, je sais bien.
L'inaccessible étoile montre qu'il nous faut avoir un idéal. Moi, l'idéal, c'est ce que je vous ai dit.
Très bien. Ben, merci beaucoup à vous et puis merci d'y contribuer à votre manière aussi. On continue donc le trio autour de ce plateau ici, toujours sur Radio Albigès, depuis le campus Font-Labour pour la 6e journée de la biodiversité avec Joël Romual. Rebonjour à vous.
Rebonjour.
Et alors, donc vous êtes restaurateur à Pau et testeur de thé. Alors, moi, ça m'intrigue beaucoup tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de... Et je précise aussi que vous êtes un des protagonistes du film Caractère qui a été diffusé tout à l'heure dans le cadre de la projection débat. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste votre métier de restaurateur, on voit, mais testeur de thé?
Voilà. Donc, si vous voulez, testeur de thé, c'est aller dans les pays, tester les thés, prendre les meilleurs, mais surtout vérifier qu'en définitive, on a la même approche au niveau du thé qu'au niveau de la restauration. Je suis un tout petit rouage de ce que vient d'expliquer fort justement Monsieur le maire, c'est-à-dire que je ne suis que le transmetteur entre le producteur et le consommateur. Par contre, effectivement, on est dans ce film parce que je pense qu'à un moment donné, c'est bien joli de parler de malbouffe, c'est bien joli de parler de gros trust, etc. au niveau de l'industrie agroalimentaire, quand vous voyez que 80% des restaurateurs actuellement utilisent des, j'ai pas dit tous, mais une grande partie de produits issus de l'industrie agroalimentaire, ça fait véritablement poser question. Et quand on entend M. le maire dire la disparition des paysans, etc., etc., nous, en tant que restaurateurs, il faut qu'on soit citoyens aussi. Et que ça fait maintenant bien 10 ans ou 11 ans, on est en circuit court et bio. Si on veut qu'un pays vive avec ses paysans, il faut leur donner la possibilité de pouvoir vivre. On a parlé du prix, mais voilà, il faut aussi qu'ils soient rétribués à sa juste valeur, c'est-à-dire que pour le travail qu'il a fourni, avec le produit qu'il a fourni. Et on a la même politique pour le restaurant que pour le thé. Voilà, on ne presse personne, on a un cahier des charges qui est de l'extrême qualité. D'autres ici à Albi, puisque j'ai vu qu'il y avait un restaurant, Le Goulu, qui fait partie du Collège culinaire de France, amené un peu par Ducasse, etc., etc., où dans ce Collège culinaire de France, on se fait la promesse qu'on est aussi restaurateur et mes citoyens.
De toute façon, c'est très important. Ça me semble presque une évidence maintenant. Alors, je sais que je suis un peu conscientisé à toutes ces problématiques-là, mais c'est vrai que si les restaurateurs eux-mêmes commencent en travaillant à partir de mauvais produits, à partir de produits industrialisés ou tout ça, c'est vrai que ça fait poser quelques questions. Et donc, c'est aussi leur rôle de remettre au centre, puisque c'est vous qui proposez la nourriture qu'on pourrait dire un peu élaborée, la nourriture, celle qui fait partie du patrimoine français aussi. Et donc, c'est d'insister sur ce fait-là, c'est un rôle en tant que restaurateur, quoi.
Et effectivement, je pense, comme l'a dit monsieur le maire, c'est politique, c'est des décisions politiques. Quand vous voyez quand même on va demander à l'UNESCO d'être la patrie de la gastronomie, et on va de l'autre côté de la frontière, au Pays Basque, où il y a l'université de la gastronomie. En France, il n'y a pas d'université de la gastronomie. On reçoit des stagiaires pour passer des CAP pour de la restauration qui est complètement dépassée maintenant. C'est-à-dire qu'on leur apprend à faire de la cuisine avec des sacs plastiques et à réchauffer, entre guillemets, quoi. On reçoit des stagiaires, je le disais tout à l'heure, qui me posent, parce que nous, on épluche les légumes finement, des fois même on laisse la peau des carottes, etc., etc. Les stagiaires nous disent eux-mêmes, mais monsieur Romuald, pourquoi vous vous embêtez? Il y a des machines pour peler toutes seules les pommes de terre. Alors, je ne vous dis pas dans quel état elles sortent, les pommes de terre, mais c'est tout à fait ça. Et ce que je trouve d'extraordinaire, c'est ce qui est en train de se passer ici depuis 6 ans, c'est de faire des journées comme ça, avec, je m'aperçois qu'il y a des gens qui sont impliqués de façon mais personnelle et sensitive avec les collégiens, avec les lycéens. Et il faudrait qu'il y ait dans tous les collèges agricoles quelque chose comme ça. Bien sûr.
Oui, surtout un collège agricole. Hein. C'est le meilleur endroit où ça pouvait se passer, en tout cas. Et c'est vrai, en plus, la peau des légumes, c'est là aussi où il y a quand même beaucoup de nutriments, de vitamines qui ne sont pas dans l'autre partie du fruit. Donc, c'est aussi question de goût et de propriété aussi, quoi.
Juste un tout petit truc, c'est que la chef est japonaise. Elle a été élue meilleure que... On le voit d'ailleurs dans le film « Meilleure cuisinière de France
wow. »
en 2014, au Japon. Et on s'est de suite entendus tous les deux. Pendant un an, on a discuté pour savoir quel type de restauration on allait faire. Le vivant est sacré, c'est la viande, c'est le poisson, mais c'est aussi le légume. Et le légume, on cuisine et on honore le légume comme on honore la viande et le poisson. Et si aux étudiants de la restauration, y compris aussi de l'agriculture, mais de la restauration, on commence à leur dire de respecter le produit. C'est pour ça que nous, quand on a des stagiaires, on les amène chez le producteur pour qu'ils s'aperçoivent tout le boulot qu'il y a derrière. Ce n'est pas seulement une pomme de terre qu'ils ont. C'est un terroir qu'il y a derrière. Il y a un bonhomme qui est passionné, qui passe un temps fou pour avoir une pomme de terre. Enfin, pas une pomme de terre, mais pour avoir une certaine qualité de pomme de terre. Ouais. Et surtout, le faire apercevoir que ça, ils vont la travailler et ils vont la donner à manger à quelqu'un qui va prendre un plaisir fou et qui, en retour, c'est valorisant au possible, la restauration, quoi. Je veux dire, chez nous, heureusement, il n'y en a aucun qui est ressorti en disant « j'ai pas aimé ».
Bah, tant mieux. Mais ça me fait penser, est-ce que vous ressentez quand même dans le milieu de la restauration un élan qui va dans le bon sens? Parce que, alors, pour vous parler très personnellement, moi je suis très fan de tout ce qui est série sur des grands groupes de distribution de vidéos qui font beaucoup de séries sur les chefs, sur la cuisine en général. Et en fait, cette notion de provenance des ingrédients est quand même au centre de beaucoup de ces séries-là. Donc c'est au niveau mondial, c'est des choses qui sont mondialisées, qui sont regardées par beaucoup de monde. Est-ce que vous le sentez? sentez cet élan qui va un petit peu dans le bon sens quand même?
Bien sûr, une certaine restauration. C'est-à-dire qu'il faut maintenant plus... C'est pour ça que je dis que bien souvent les collèges en restauration et hôtellerie sont un tout petit peu dépassés. Maintenant, on travaille avec des centres de formation maintenant par rapport à ça. On ne mange plus dans les restaurations comme on mangeait avant, parce que les gens n'ont plus le temps, parce que les gens ne savent plus faire, etc., etc. Et que donc, la restauration, on ne peut plus maintenant dire qu'il y a une restauration. Mm-hmm. Il y a la restauration gastronomique, mais il y a aussi ce qu'on appelle la RHF, c'est-à-dire la restauration hors foyer. Ça va du sandwich à la boîte de nouilles qu'on fait réchauffer ou la pizza qu'on se fait livrer. Mais ça n'a plus rien à voir avec la restauration et encore plus avec la restauration traditionnelle. Donc essayons. Il faut qu'il y ait un écrémage là-dedans en disant, et le Collège culinaire essaye de le faire, appelons restaurateur ou... je vais vous dire une chose. Heureusement pour vous, je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas vous couper les cheveux. Heureusement pour vous, parce que je vous assure que... sachant comment je peux manier les ciseaux, vous auriez plutôt peur. Je ne peux pas vous couper les cheveux et je ne peux pas, parce que je n'ai pas mon CAP de coiffeur. Par contre, je peux vous empoisonner. C'est-à-dire que je peux ouvrir un restaurant sans avoir un CAP cuisinier. Est-ce que c'est normal? Je pose la question.
Comme dit Rabhi, il faudra dire avant de manger bonne chance plutôt que bon appétit.
C'est ça. Et c'est assez triste comme constat, mais bon, c'est pour ça que ces journées sont très essentielles aussi pour avoir un peu un état des lieux de tout ce qui se fait. Peut-être une dernière question à vous au niveau des thés. C'est vrai que moi aussi j'adore le thé, j'en bois beaucoup, mais c'est quand même malheureusement un produit qui est très rare à trouver en France. Je ne sais même pas, est-ce qu'on a de la production de thé locale? Et donc du coup on est quand même obligé de passer par des transports qui viennent de très loin pour amener du thé. Et à une époque où on se pose des questions sur la pertinence de consommer des produits qui viennent de l'autre bout du monde, c'est quoi un peu l'avenir du thé?
Oui, tout à fait. Alors, mauvaise nouvelle, non, pour les industriels du thé bas de gamme, etc. En Europe, on constate une baisse de la consommation du thé bas de gamme, avec une hausse du thé de valeur et haut de gamme. Au niveau du tonnage, baisse, au niveau du prix, une hausse. Donc déjà, c'est rassurant. Après, moi, au niveau du thé, je me rends dans les pays, effectivement, mais la plupart du temps, ils sont envoyés par bateau. Mais c'est comme le café, quoi. Je veux dire, oui, le café ou comme la banane, si on veut bouffer de la banane, à un moment donné, ou alors on mange que de la poire et que de la pomme. À un moment donné, il y a ça, mais c'est surtout la recherche. C'est-à-dire que nous, comme pour la restauration, on ne va travailler qu'avec des petits producteurs qui font pousser le thé, qui le cueillent, qui le transforment et qui ensuite le commercialisent. Ce qui m'amène de temps en temps aussi avec une grosse problématique, c'est au niveau de la logistique. C'est-à-dire que ce sont des petits producteurs. Bien souvent, au Japon, par exemple, je pense à M. Nakao, qui ne peut pas vivre que du thé. Donc, il fait pousser aussi du riz. On en parlait tout à l'heure. Et il fait pousser du shiitake. Si à cette personne-là, je lui dis, voilà, je voudrais 200 kilos de thé, il va me regarder avec des yeux pas possibles en disant, mais qu'est-ce que vous me demandez là, quoi? Je peux vous fournir 60 kilos, point barre, quoi. Mais par contre, avec une qualité exceptionnelle. Ça, c'est évident.
Je comprends. Et est-ce que, parce que je vais continuer là-dessus sur la production locale de thé, est-ce qu'on a déjà essayé en France? Est-ce que, parce qu'on a quand même un pays qui couvre beaucoup de climats, de régions. Ouais.
Alors, il y a ce qu'on appelle des thés, mais qui en fait ne sont pas des thés, ce sont des herbes. Les thés catalans, etc., etc., ce sont des herbes. Du côté du pays de la Camargue de monsieur, il y a eu une tentative qui s'est arrêtée relativement vite parce que le prix de revient au niveau de la culture, à ce moment-là, il y a 15 ans, c'était un peu limite. Du côté de l'Angleterre, Gulfstream et tout, ils essayent de faire pousser du... D'ailleurs, ils y arrivent, mais honnêtement, au niveau gustatif, je ne veux pas être méchant, c'est un peu comme les Japonais qui se mettent à faire, avec le Benifuki, qui font du thé noir ou du vin. Honnêtement, j'ai goûté certains vins qui sont bons. Bien souvent, ils ont fait des études du côté de Montpellier. Le thé noir, honnêtement, il faut mieux qu'il reste sur le thé vert. Ça, c'est évident. Après, c'est marketing, quoi. Enfin, voilà, quoi. Mais ça existe, mais pourquoi pas, je veux dire, au Pays Basque, le Pays Basque avec le côté de d'humidité et de chaleur se rapproche véritablement du Japon. Pourquoi pas, on n'a jamais essayé encore.
Il y a un marché à saisir là, hein. En tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que l'une de vous voit quelque chose à rajouter
Monsieur le maire va clore.
Écoutez, en tout cas, merci de votre invitation. Bravo à ce lycée de mettre une journée sur la biodiversité, de mettre l'accent sur cette nouvelle formation en direction de ceux qui vont être les alimenteurs de l'avenir. Et puis bravo aussi aux restaurateurs par leur action d'amélioration des formations aussi et des qualités des produits qu'ils achètent, d'induire une autre façon de se nourrir, de respecter la terre et de respecter l'environnement.
Ah bah super, c'est parfait comme conclusion. Merci beaucoup à vous, Édouard Chollet, vous êtes maire de Barjac, Joël Romuel, restaurateur à Pau et testeur de thé. Et donc tous les deux, vous êtes protagonistes du film Caractère qui a été diffusé donc aujourd'hui. Le jour où est enregistrée cette émission, donc pour la 6e journée de la biodiversité au campus de Fond-Labourg. Merci également Corinne Fonseca, vous êtes professeure ici et un petit peu à l'origine de cette projection débat grâce à l'aide de vos élèves également.
Exactement, et je terminerai par remercier, puisqu'on en est au temps des remerciements, bien évidemment à Monsieur le maire et à Joël Romuald d'avoir accepté l'invitation des élèves. Et donc un dernier merci à Clément Marty et Ophélie Hébert qui sont à l'initiative de cette journée. Ça fait la 6e. C'est un boulot monstre et vraiment ils ont l'envie, ils ont l'énergie et merci à eux de nous avoir emportés dans ce beau projet.
Également, on peut les remercier pour cette organisation parfaite de cette journée. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Vous êtes bien sur Radio Albigès dans votre magazine Gardarem La Terre, cette semaine consacrée à la 6e journée de la biodiversité qui a eu lieu le 18 avril 2019 sur le campus Fond-Labour à Albi.
Et on continue donc notre petit tour des stands ici à cette 6e journée de la biodiversité sur le campus de Fond-Labour. Et on est en compagnie de Thomas Braille, merci. Mais bonjour à toi, et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es ici et qu'est-ce que tu présentes sur ton stand?
Alors d'abord bonjour, alors moi je suis ici en tant que grimpeur arboriste, je suis aussi producteur de PNPP, de préparation naturelle peu préoccupante, et je fais aussi des conférences sur l'arbre, des formations pour soigner les plantes par les plantes. Voilà, je suis ici aujourd'hui parce que je pense que c'est presque même un devoir, je dirais. Voilà, parce que vu comment tourne notre planète à l'heure actuelle, il y a une grande urgence à donner envie aux jeunes de se réintéresser et de se réapproprier les notions de la nature qu'on a perdu. Je dirais depuis une bonne centaine d'années qu'on s'est déconnecté de la forêt et du monde, du monde naturel, tout simplement. Et donc, il y a vraiment une urgence à se reconnecter à ça si on ne veut pas aller droit dans le mur, quoi.
Et du coup, est-ce que tu peux nous... grimpeur arboriste, ça intrigue quand même comme profession. Est-ce que tu peux nous développer ça, nous dire un petit peu en quoi ça consiste?
Alors oui, d'abord, pourquoi grimpeur arboriste et pourquoi pas grimpeur et lagueur? Il y a une petite mauvaise publicité, je trouve, au niveau des grimpeurs et lagueurs. Il y a eu à boire et à manger, il y a eu un petit peu de tout, notamment tout ce qui est étage, les arbres qui font 20 mètres et qu'on ramène à 10 mètres et qu'on coupe par le haut. Enfin, tout ça, voilà, c'est des notions que moi, je fais pas, que j'ai pas envie de transmettre. Moi, ce que j'ai envie de transmettre, c'est la bonne santé de l'arbre. C'est surtout qu'un arbre en bonne santé, c'est un arbre qu'on ne touche pas. Alors, vous allez dire, c'est paradoxal, ça veut dire que j'ai pas de travail. Mais non, du travail, il y en a. Il y a toujours de la sécurisation, de la purge de bois mort dans des parcs, notamment pour éviter les chutes de branches sur les enfants. Il faut savoir qu'une branche qui tombe à 10 mètres de haut, ça peut tuer un enfant, hein, même une petite branche. Il y a aussi le soin. Bon, je pars du principe qu'il vaut mieux, donner tous les atouts et toutes les vitamines entre guillemets à un arbre, hein, un petit peu comme nous pour passer l'hiver, plutôt que de pallier ensuite, de devoir être dans le curatif, quoi. Voilà, je préfère anticiper plutôt que de me dire après il faut soigner. Après, un arbre, c'est pas... c'est comme nous, hein, je suis pas forcément d'accord pour les soins palliatifs. Hein, un arbre, quand un champignon est installé ou quand un insecte est là, à un moment donné, il faut laisser faire la nature. Hein, chaque insecte, chaque larve, chaque chenille, chaque bactérie, chaque virus a son rôle à jouer. On n'est pas là pour faire de l'acharnement thérapeutique, quoi. Voilà.
Et du coup, concrètement, en quoi ça consiste ton travail, quelles sont tes missions, ça fait un peu cliché comme question, mais une journée dans la vie de ta profession, à quoi ça peut ressembler?
Ça peut ressembler que je travaille pour les particuliers, pour les collectivités. C'est répondre à des problématiques chez les gens. C'est parfois repartir d'un chantier parce qu'un client vous demande d'abattre un cèdre et que quand vous arrivez, ce cèdre... Il est tout jeune, il est tout bébé parce qu'il a juste 40 ans et que c'est encore un bébé et qu'il est en pleine forme, il a toute la place pour s'épanouir, qu'il n'y a aucune dangerosité et qu'à un moment donné, il faut arrêter de couper des arbres pour couper des arbres. On n'est pas là pour se faire de l'argent sur les arbres, sinon on ne fait pas ce métier-là, quoi. Sinon, on vend du glyphosate ou on fait autre chose. Mais surtout pas ce métier-là. Ce métier-là, c'est OK... il faut bien vivre, mais on est là pour trouver les bonnes solutions et faire en sorte que le patrimoine végétal vive le plus longtemps possible, parce que d'une, c'est notre bien commun, parce que c'est une source inépuisable d'oxygène, et parce que c'est un arbre, c'est un amas de carbone, hein, que vous le vouliez ou non. Une tonne de bois emmagasine 1,8 tonnes de carbone, presque deux fois sa propre masse. C'est juste, quand vous savez ça, c'est l'équivalent d'un aller-retour à Paris avec une petite voiture, quoi. Donc, les problématiques d'aujourd'hui, le réchauffement climatique, il est dû à quoi? Il est dû au fait qu'il y a trop de déforestation. On s'alarme que, bien souvent, on s'alarme sur les pays lointains, notamment l'Amazonie et d'autres pays qui sont en pleine voie de déforestation. Mais il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Hein. Des coupes rases, en France, vous en avez. Hein. On en a à 10 km ici, vous allez dans la montagne. On doit arrêter ce genre de pratique parce qu'il n'est pas du tout bon pour l'environnement et pour la faune et pour la flore. Et on le sait, c'est à partir du moment où on touche, on fait un déséquilibre quelque part, c'est toute une chaîne qui est complètement abîmée et qui va mettre des décennies, voire des centaines d'années à s'en remettre. Quoi.
Et du coup, moi, je me pose une question parce que j'imagine que peut-être que les clients qui font appel à toi, les personnes qui te contactent pour te demander des travaux de délagage ou de coupe d'arbres, sont peut-être pas. Est-ce qu'ils sont déjà au courant de toi, tes sensibilités par rapport à ça? Et est-ce qu'ils s'attendent juste à ce que tu exécutes ce qu'ils te demandent de faire? Et est-ce qu'ils sont. C'est quoi leur réaction quand toi tu leur dis, ben non, finalement, j'ai pas coupé votre arbre alors qu'au final, c'est ce qu'ils t'ont demandé? Comment ça se passe?
Alors, bien entendu, si c'est eux qui me disent le travail qu'il faut faire, déjà, ils ne s'adressent pas à la bonne personne, parce que j'arrive en tant que professionnel, donc moi, j'ai mon mot à dire. Maintenant, ça m'est arrivé de redonner des chantiers à des collègues qui, eux, le font, mais moi, c'est pas du tout... Moi, je suis là pour sensibiliser le client. Bien souvent, alors à 99%, j'y arrive, sans me vanter, mais... j'ai ce même discours, j'explique que... Alors vous savez quoi, en fait, c'est pas compliqué. Déjà, vous touchez à l'aspect financier sur un arbre. Un client qui a 40 ans, qui va me faire venir, qui veut couper son arbre par le milieu parce qu'il est trop haut, d'accord, je lui dis qu'OK, je vais revenir tous les 2-3 ans parce qu'il va y avoir des pousses de 2 ou 3 mètres. Donc ça, ramener, vous multipliez, si le monsieur il vit encore 40 ans, je lui donne jusqu'à 80 ans. Vous additionnez tous les 3 ans le tarif que je vais lui imputer, ça multiplié jusqu'à la fin de sa vie, financièrement l'arbre lui revient très très cher, je peux vous assurer. Et quand vous commencez à lui parler du portefeuille, s'il ne comprend pas l'aspect physiologique et l'aspect nature de l'arbre, il s'arrête vite, il a vite fait le calcul dans sa tête. Voilà, et puis non, mais enfin, après, voilà, ça, c'est vraiment le cas extrême. Mais sinon, vous savez, les gens, je pense qu'il y a juste un problème d'éducation. On s'est complètement coupé de la forêt il y a vraiment une centaine d'années. Comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment une centaine d'années qu'on s'est coupé de tout ça. On ne sait même plus ce que c'est un frêne, on ne sait même plus ce que c'est un érable. Les nouvelles générations, elles ne savent plus trop ce que c'est. Alors, pas tout le monde, il y a des gamins qui sont connectés à ça, mais il faut vraiment renvoyer les gamins dans les forêts. Il faut les papas et les mamans, ben, il faut qu'ils reprennent les enfants et qu'ils les fassent se promener en forêt. Il faut savoir qu'en forêt, il y a des molécules naturelles qu'on appelle des phytoncides, qui sont fortement bénéfiques pour notre organisme, qui sont des molécules fortement anticancérigènes aussi. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Je pense que même vous le ressentez. Si vous passez une heure en forêt, vous vous sentez bien.
C'est ce que j'allais dire. Ouais. Des fois, on ressent juste le besoin d'y aller, de se rapprocher de certains environnements.
Tout à fait. Après, voilà, on appelle ça, c'est la grande mode. Maintenant, c'est la sylvothérapie. C'est la thérapie par la forêt quand on va pas bien. Mais je sais que.
Après, il y a aussi l'histoire d'aller faire les câlins aux arbres et tout ça.
Après, je vais vous dire une chose. C'est suivant la sensibilité de chacun.
Oui, je suis complètement d'accord.
Il y en a qui vont ressentir des choses, et tant mieux pour eux. Moi, j'arrive à les ressentir, honnêtement, parce que moi, je vis au quotidien avec eux. Je pense que j'ai gardé un côté reptilien encore, hein, ce côté reptilien qu'on a perdu, qui remonte à la nuit des temps, hein, à l'homme des cavernes, où on était vraiment connecté à la terre, parce que déjà on ne marchait pas avec des chaussures. Alors vous allez me dire pourquoi je vous parle de chaussures, mais parce que les chaussures, elles nous coupent du sol et du monde du vivant, et des ondes électromagnétiques que dégage la terre. Et ça, on a perdu tout ça, on a perdu tout ce savoir, et il est grand temps de se reconnecter, mais rapidement, quoi.
Justement, par des journées comme ça, c'est un bon début déjà.
Complètement, oui, oui. Non, mais moi, je suis ravi. Moi, je vais vous dire, moi, je suis venu ici parce que si ce soir, je repars en me disant, vous voyez, il y a un gamin qui m'a demandé de faire un stage ou de venir faire de l'apprentissage. Voilà, tout ça, c'est à réfléchir. Il faut voir, il y a plein de choses, mais tous ces gamins-là, moi, les stages, je prends des gamins en stage parce qu'on ne peut pas leur dire non. Je ne peux pas leur dire non. Moi, si ce soir, je sais que j'ai suscité des vocations et qu'il y a des gamins qui vont monter dans les arbres demain, parce que ce n'est plus moi l'avenir, hein, c'est mes enfants, c'est les vôtres, c'est tous ces gamins qui sont là et qui cherchent un boulot. Mais le boulot, il est là-dedans, il est dans le verre, il est dans tout ce qui va nous faire vivre et nous faire survivre, hein, parce que là, on est un peu dans la survie en ce moment. Il n'est plus dans, je ne vais pas faire mon vieux, mais il n'est plus dans les nouvelles technologies de machin. Il y a des choses intéressantes dans tout ça, mais la vraie vie, elle est dans le sol, elle est dans ce qu'on respire tous les jours. Et il faut juste que la terre aille bien pour que nous puissions aller bien. Voilà.
Ben merci, je trouve que c'est pas mal comme conclusion. On arrive à la fin de cette 6e journée de la biodiversité à Fond-la-Bourg, justement. Je pense que ce que tout le monde se dit sur les stands, si on a réussi à montrer un petit peu quelque chose de différent à toutes les personnes qui sont venues, il y a eu énormément de groupes d'enfants, d'écoles, très jeunes, un peu moins jeunes aussi, presque adultes. Donc c'est parfait, quoi. Merci beaucoup à toi.
Merci. Merci à vous.
Et je rappelle aussi qu'on peut écouter une de tes conférences toujours sur le site de Radio Helvigès. Si vous allez rechercher les podcasts de la dernière année de Biocibel, où tu nous apprends à faire des purins d'ortie et autres préparations végétales peu préoccupantes, c'est ça ?
Là, les PNPP, voilà, préparation naturelle peu préoccupante. Voilà.
Et franchement, elle était super. Moi, je me rappelle, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère bien le faire cette année, mon purin d'ortie.
Merci en tout cas, merci à vous.
Merci, bonne journée.
Au revoir.
C'est la fin de ce magazine Garde Arem la Terre sur Radio Helvigès. Merci à vous de l'avoir suivi avec nous. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues au micro. Merci aux personnes qui ont organisé cette journée et qui ont permis qu'elle se déroule dans des conditions idéales. Si vous souhaitez réécouter le podcast de ces émissions, vous pouvez aller sur le www.radiohelvigès.com. Merci à vous et très bonne écoute.